Vous écoutez RFI, les midis à Paris, 11h en temps universel. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les déclarations choc de Donald Trump sur la bande de Gaza. Recevant à Washington le Premier ministre israélien, le président américain a souhaité que les États-Unis prennent le contrôle du territoire pour en faire une sorte de côte d'Azur. Il a aussi redit que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Ces déclarations ont été vivement condamnées dans le monde arabo-musulman, également par Paris qui évoque une violation grave du droit international, à suivre dans un instant. Au sommaire également, les effets du gel de la participation américaine au fonds de soutien à la police d'Haïti. Et en France, deux motions de censure soumises au vote cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement Bayrou devrait rester en place. Un silence assourdissant a dans un premier temps suivi les déclarations fracassantes de Donald Trump sur le Proche-Orient. Venant de lui, plus rien n'étonne théoriquement, il n'empêche que la surprise est totale. Le président américain veut prendre le contrôle de Gaza et ce n'est pas une décision prise à la légère, assure-t-il. Annonce ce choc faite hier soir devant la presse aux côtés de Benjamin Netanyahou qu'il recevait à la Maison-Blanche. Cette proposition pourrait changer l'histoire a paru se réjouir le Premier ministre israélien. Récit sur place de David Thompson.
Il ne s'agit pas d'une parole improvisée. Donald Trump lit son discours au pupitre de la Maison Blanche. Il propose en pleine conférence de presse conjointe, aux côtés de Benjamin Netanyahou, que les États-Unis prennent possession de la bande de Gaza.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons du bon travail.
La déclaration sidère l'assistance, d'autant que Donald Trump n'exclut pas d'utiliser la force.
Si nécessaire, on le fera. J'imagine une possession de long terme.
Et en bon promoteur, le président américain rêve de projets immobiliers pour Gaza.
Le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. On a l'opportunité de faire quelque chose de phénoménal. Une riviera du Proche-Orient.
Quant aux habitants de Gaza, Donald Trump souhaite les relocaliser ailleurs, en Égypte et en Jordanie. Les deux pays ont déjà refusé, mais Trump est convaincu de pouvoir les faire changer d'avis.
J'ai le sentiment que le roi de Jordanie et le général d'Égypte vont ouvrir leur cœur et nous donneront la terre dont nous avons besoin pour faire cela, pour que les gens vivent en paix et en harmonie.
À ses côtés, même Benjamin Netanyahou semble dépassé par les paroles du président américain. Notre objectif, dit le Premier ministre israélien, est que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Mais le président Trump, dit-il, met la barre encore plus haut. David Thompson, Miami RFI.
Et parmi les réactions à cette annonce choc, celle du Hamas, alors que des négociations sont en vue avec Israël en vue de poursuivre la trêve actuelle à Gaza. Le Hamas, comme plusieurs dirigeants palestiniens, a condamné ces propos qu'il a qualifiés de racistes et accusé Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. Réaction aussi de la France. Le déplacement forcé de la population palestinienne de la bande de Gaza constituerait une violation grave du droit international, déclare le ministère français des Affaires étrangères. Le même Donald Trump qui rêve de s'emparer de la bande de Gaza a par ailleurs déclenché une nouvelle guerre commerciale avec la Chine. Après avoir dévoilé hier des mesures de rétorsion, la Chine a dit ce matin son hostilité au relèvement des droits de douane américains sur ses produits. Elle a aussi appelé Washington au dialogue. À Washington, la nouvelle administration est en pleine phase de désengagement. Elle a coupé ses financements à l'aide internationale et au développement de nombreux programmes. Par exemple, celui de la mission multinationale d'appui à la sécurité chargée d'aider les forces de l'ordre haïtiennes à lutter contre les gangs armés à Port-au-Prince. Le manque à gagner est de 13 millions de dollars. Un vrai coup dur pour cette mission, explique Diago Darin, spécialiste d'Haïti à l'International Crisis Group.
La mission était déjà plus ou moins moribonde, avec un grand manque de fonds qui ne lui avait permis jusqu'ici que de déployer un tiers des forces qui devaient arriver sur le terrain. Ces 13 millions n'allaient pas complètement sauver la mission de tous ses problèmes financiers, mais ça représentait de toute façon une contribution qui allait permettre de maintenir les contingents qui sont en train d'arriver en ce moment. Mais si d'ici un ou deux mois, il n'y a pas de nouvelles contributions qui permettent non seulement de maintenir les troupes qui sont déjà sur le terrain, mais de continuer à déployer des contingents qui sont absolument nécessaires pour faire changer le rapport de force entre les forces de sécurité et les gangs. La mission pourra, dans le meilleur des cas, maintenir quelques contingents sur place, mais qui ne peuvent que réagir de manière réactive à des attaques de gangs et pas de déployer leur stratégie de sécurité qui avait été planifiée. Et dans le pire des cas, les personnes de la mission vont devoir retourner dans leur pays.
Un propos recueilli par Michael Ponge, des déclarations vides de sens. C'est ainsi que le Kremlin a réagi ce matin aux déclarations de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est dit prêt à des négociations directes avec son homologue russe et avec d'autres dirigeants afin de mettre fin au conflit. Interrogé sur la possibilité de négocier avec Vladimir Poutine, il a répondu qu'il le ferait si c'est le seul moyen d'apporter la paix aux Ukrainiens et de sauver des vies. On en vient à l'actualité politique en France. Aujourd'hui encore, tous les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. En début de semaine, le Premier ministre François Bayrou a recouru deux fois à l'article 49.3 dans l'espoir de voir le budget adopté sous 10 jours. En réponse, la gauche a déposé deux motions de censure, des motions examinées dans l'hémicycle cet après-midi. Victorien Guillaume, bonjour, vous êtes sur place pour RFI.
Bonjour Gilles, bonjour tout le monde.
Deux motions, mais zéro suspense, est-ce que vous me permettez de résumer ainsi ?
Oui, exactement, Gilles. On est loin du suspense intense du mois de décembre dernier. Michel Barnier, souvenez-vous, était alors Premier ministre et faisait face à une pression maximale des partis d'opposition. On se disait alors que le risque était grand pour Michel Barnier de tomber et cela s'était confirmé. Cette fois, Gilles, la configuration est bien différente. Le Parti socialiste s'est mis d'accord pour ne pas voter la censure. Le PS dit avoir obtenu des concessions sur le budget et surtout le parti estime que même si c'est un budget, je cite, de droite, la France en a besoin pour avancer, pour fonctionner. Il va quand même être intéressant de voir si quelques députés socialistes décident à la dernière minute de ne pas respecter la consigne, même si cela ne changera pas, Gilles, le cours des choses.
Alors, autre point crucial, Victorien, c'est le Rassemblement national qui, lui non plus, ne compte pas voter la censure.
Oui, Jordan Bardella, le président du RN, a clairement laissé entendre hier qu'il n'était pas pour faire tomber une deuxième fois le gouvernement, tout en dénonçant un budget extrêmement mauvais. Il assure que beaucoup de Français ne veulent pas que l'instabilité politique s'installe dans la durée. Et ce matin, le vice-président du RN, Sébastien Chenu, est allé dans le même sens. En fait, le parti d'extrême droite se dit désormais dans l'attente d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale à partir de cet été.
Et dans l'immédiat, Victorien Guillaume, on peut dire que l'horizon politique s'éclaircit pour François Bayrou.
Oui, si le PS et le RN ne changent pas d'avis, cela va offrir quelques semaines, quelques mois peut-être de répit au Premier ministre centriste François Bayrou. Une députée macroniste m'expliquait d'ailleurs avec satisfaction « Nous allons enfin mettre des budgets pour les politiques publiques que nous voulons conduire ».
Merci, c'était Victorien Guillaume du service politique en direct de l'Assemblée nationale. Le gouvernement Bayrou est donc bien parti pour rester, avec pour conséquence la mise en œuvre du budget 2025. Un budget d'austérité, il prévoit une diminution de 23,5 milliards d'euros des dépenses publiques. Et parmi les coupes, les plus franches frappent l'environnement, Simon Rosé.
Face au dérapage budgétaire, il y avait déjà eu les 10 milliards d'euros gelés en février 2024, puis 10 nouveaux milliards à l'automne. À chaque fois, l'écologie et la transition environnementale avait fait figure de cible de choix. Rebelote pour le budget 2025, la mission écologie est la plus touchée. Principale victime, les aides à l'achat de véhicules électriques, elles ont été divisées par 3. Celles à la rénovation thermique des bâtiments sont presque diminuées de moitié. Leur enveloppe passe de 4 à 2,3 milliards d'euros. Le fonds vert conçu pour accompagner les collectivités locales dans leur transition écologique échappe au pire. Il aurait dû être amputé d'un tiers. Face à l'inquiétude des élus locaux, il conserve finalement son enveloppe de l'année dernière. Idem pour l'agence bio, dédiée à la promotion de l'agriculture biologique, un temps menacée, elle sauve finalement sa peau. La politique de l'eau n'échappe quant à elle pas au coup de rabot. Son budget perd 100 millions d'euros. Au total, la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation à ses conséquences et la transition écologique perdent plus de 2 milliards d'euros dans ce budget, alors que l'ouest du pays connaît encore de très importantes inondations et que les émissions de gaz à effet de serre françaises sont reparties à la hausse fin 2024.
Simon Rosé, un mot d'économie avant de conclure. Début de journée en légère baisse à la bourse. bourse de Paris, moins 0,36%. Prudence des investisseurs en raison des menaces de droits douane américains qui pèsent sur l'Europe. Et puis au Japon, c'est le secteur automobile qui inquiète le marché. Le titre Nissan, constructeur en difficulté, a dévissé ce matin. Des informations de presse font état de l'abandon de son projet de fusion avec son concurrent Honda, dont le titre, lui, s'est au contraire envolé. Voilà, très bonne journée sur RFI. L'information continue dans un instant avec grand reportage.